Alors du coup, moi j'ai vu des vidéos qui datent de 2014. Vous parliez déjà de l'ARN messager.
De l'ARN, probablement, parce que l'ARN messager, c'est justement moi ce que je me suis intéressée à l'ARN non codant, qui est donc non messager, qui est la partie qui est assez révolutionnaire parce que elle truffe notre génome et elle est un réservoir de beaucoup d'informations. Et c'est par ce biais-là que j'ai été très interpellée quand on m'a dit qu'on allait injecter avec de l'ARN messager des populations entières. Parce que je sais que, un peu comme la thérapie génique, c'est bien, bien malheureux à dire, la thérapie génique avec ADN, on en a parlé pendant très longtemps, vous savez, c'était les génitons, les télétons. Et en fait, on est toujours à des difficultés d'avoir montré le succès d'une thérapie génique à ADN. Et bien la thérapie avec ARN messager, eh bien on a les mêmes, il semblerait qu'on ait des difficultés, un peu les mêmes difficultés qu'on rencontre. C'est pas si simple que ça, que d'introduire une information génétique dans vos cellules et d'en maîtriser les conséquences. Donc du coup, il y a actuellement, donc qu'on arrête de dire qu'il y a des tas de thérapies ARN messager qui existent, c'est, je suis obligée de monter le ton. Il existe actuellement, j'ai à peu près recensé, je crois qu'on est à 70 essais cliniques sur des injections d'ARN messager, toutes causes confondues, que ce soit sur des cancers, sur le Covid, etc., etc. Donc on a sur ces 70, ce qui est terrible, c'est que pour le moment, celles qui sont arrêtées, c'est parce qu'elles se sont arrêtées en phase 1. Quand ça s'arrête en phase 1, c'est que les résultats ne sont pas très positifs. Les autres sont ou en cours, enfin il n'y en a aucune d'aboutie, ou vont être démarrées. Voilà. Donc ça c'est la situation actuelle, et donc finalement celle en cours, c'est celle qu'on subit tous là, par cette campagne de vaccination massive, d'injection massive, devrais-je dire, et donc c'est bel et bien une expérimentation en cours. Donc il faut, ça je veux bien le répéter à façon, parce que il y a à chaque fois on nous dit ah ben si c'est terminé, non ça n'est pas terminé.
Et est-ce que l'ARN messager, enfin l'ARN, on peut le programmer?
Alors on programme, en fait c'est un programme. Il faut considérer l'ARN messager comme un code, et donc c'est un code qui vous met en capacité dans vos cellules de produire une information d'une autre espèce, donc de devenir un OGM, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous transformez en producteur de protéines spike par l'information génétique que vous avez reçue.
Donc on modifie le génome.
Donc on modifie votre patrimoine génétique au point de l'augmenter. Donc on est vraiment, c'est du transhumanisme en fait, hein. C'est-à-dire qu'on vous augmente et on apporte l'information dans vos cellules de produire une protéine de virus que votre corps ne faisait pas, évidemment, vous n'aviez pas vocation. Et quelle est la grosse différence avec un vaccin à ARN? La grosse différence, les vaccins, on a parlé de la rougeole. La rougeole, effectivement, est un virus à ARN. Sauf que c'est un virus atténué qui vous est injecté. Dès lors qu'il vous est injecté, votre système immunitaire le reconnaît comme étant une information étrangère. Ce qui n'est pas le cas de l'injection ARN qui est dans une petite capsule lipidique. Voilà. Et donc la grosse nuance, c'est que du coup, pendant 10-15 jours, vous n'avez pas à faire d'anticorps. C'est l'énorme. Alors quand on dit ah oui, mais les effets indésirables, on a toujours eu. Ah oui, mais sauf que c'est pas exactement les mêmes. Sauf que là, c'est pas le système immunitaire qui se met en route. Il y a visiblement, notamment, une toxicité qui se fait au niveau du foie. Et donc ces toxicités nous ont alertés au point que nous avons interpellé, nous étant des scientifiques du monde entier, nous avons interpellé l'Agence du médicament européen sur le potentiel qu'il y aurait de déclencher des cancers et savoir qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour surveiller cela. Nous avons reçu une réponse, comme quoi il y a quand même des règles dans la vie et que, contrairement à ce que certains croient, il est bon de faire les choses dans l'ordre. La réponse a été sidérante. La réponse a été, d'une part, qu'il fallait comprendre que cela prenait du temps et que cela coûtait de l'argent de faire de telles études. Quand on injecte des milliards et quand on injecte des enfants, dire que ça prend du temps ou que ça prend de l'argent de faire des études pour voir s'il y a éventuellement une cancérogénicité, c'est-à-dire que c'est cancérigène, ces injections, ça me semble du niveau de l'indécence. C'est pas de l'irresponsabilité, c'est carrément de l'indécence. Le deuxième niveau de réponse était quand même aussi très intéressant, c'est qu'ils nous ont répondu: ah oui, il y a certes cette nouvelle nanoparticule lipidique qu'on a utilisée pour faire cette petite enveloppe, on sait bien que c'est toxique, mais on est rassuré parce que comme on n'en met pas beaucoup et qu'on ne fera que 2 doses, tout va bien. Ah oui, 2 doses, sauf qu'entre temps, il a été décidé de faire 3 doses. Et que nous avons tout lieu de penser qu'il faut faire 4 doses, 5 doses, puisqu'en fait, à chaque fois, l'immunité chute. Et donc, en fait, cette défense qu'on nous disait être fantastique et celle dont nous devions désirer de tout notre cœur n'est pas du tout durable, contrairement à l'immunité naturelle qui est durable et qui, elle, ne s'effondre pas au bout de. Ni de quelques mois, même de quelques années.
Et on peut dire qu'il y avait préméditation dans le sens où il y avait des commandes de vaccins en grande quantité.
De vaccins ?
De doses. Apparemment.
Oui, 1,8 milliard de doses ont été commandées en mai dernier par l'Europe. Donc effectivement,
ils étaient au courant qu'il y allait avoir déjà plusieurs injections.
D'Européens. Donc absolument, dès en mai, mais même avant. En vérité, lorsque les premières commandes, elles montaient à 200 millions. Nous ne sommes que 60 et quelques millions. Donc nous savions, et donc vous avez beau les multiplier par 2, vous comprenez bien que, alors on nous disait, oui, mais alors c'est au cas où il y en ait qui se perdent, et puis c'est aussi pour en envoyer à d'autres pays, etc. Enfin bon, ils ont bon dos tous les pays. D'après ce que je comprends, des rentrées, des saisies informatiques, beaucoup de cartes dans différents pays listent 8 doses. Voilà. Moi, j'ai compté au niveau français, je compte à peu près 7 doses. Donc, on est dans un mouchoir de poche. Donc, effectivement, il faut comprendre que dès lors qu'on met le doigt dans cet engrenage, ce n'est pas 2 doses et on vous laisse tranquille, c'est un abonnement récurrent, tous les à peu près, de ce qu'on comprend, 5, enfin de ce que nous a annoncé Fauci aux États-Unis, tous les 5-6 mois. Voilà. Ce qui est encore une fois une aberration. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ils ne parlent pas de rappel, ils parlent de dose. En fait, ils utilisent un langage qui est totalement nouveau, qui est un langage qu'on n'a jamais utilisé pour les vaccins. L'autre notion qu'on n'a jamais utilisée pour les vaccins, c'est vous avez été malade, on vous vaccine quand même. Ben non, dès lors que vous avez contracté la maladie, d'habitude, on ne vous vaccinait pas.
Donc, vous voyez, il était en lien avec le laboratoire de Wuhan. J'ai vu ça, qu'il était Fauci, il était en...
Ah oui, mes collègues qui ont publié dans Lancet, c'est peut-être ça que vous voulez dire aussi, que... qui avait notamment publié le fait tout scientifique qui osait dire que le virus n'était pas d'origine animale, en gros, était conspirationniste. Et donc, 26 des 27 étaient en conflit d'intérêts. Vous voyez, ça fait partie de ces choses qui ne sont pas très jolies. Et voilà, et donc, moi, j'aime bien, je donne rendez-vous dans l'histoire face à tout ce que j'ai dit, pas ce qui a été détourné de ce que j'ai dit, parce que tous les fact-checking, ils ont un chic extraordinaire à détourner ce que je dis, à modifier la phrase et à dire « Ah, c'est pas vrai que !» Bah oui, effectivement, c'est pas vrai que, mais d'un côté, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Donc, voilà. Donc,
Et on ne connaît pas la composition exacte de ces vaccins, de ces injections, de ces substances.
Il nous est donné une liste d'ingrédients, mais qui visiblement n'est pas parfaitement qui parfois est variable. J'en veux pour preuve le scandale qui s'est passé au Japon. Alors à moins qu'il y ait un complot contre le Japon, hein, c'est quand même curieux. En tout cas, les Japonais eux ont remarqué que des doses contenaient des petites particules métalliques capables d'aimantation. Et donc, bon, que ce soit chez Pfizer ou chez Moderna. Donc, c'est quand même deux laboratoires. Donc, effectivement, tout ça, vous dites, mais c'est quand même bizarre. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on a comme contrôle de ce qu'il y a dans les flacons?
Et j'ai vu ces vidéos où ils aimantent des choses sur le bras.
Ou... Oui, alors, ces vidéos que j'ai pensé au départ totalement délirantes et complotistes. Du coup, je me suis dit, il faut toujours rester ouvert d'esprit. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder sur les non-vaccinés. Et donc, sur les non-vaccinés, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi une aimantation, mais pas au même endroit, en fait. C'est une aimantation, par exemple, sur le haut de l'épaule. Et donc, effectivement, vous avez une capacité d'aimantation ou sur le front, sur la base du nez, sur le sternum. Et en fait, c'est des cristaux de magnétite, visiblement, qu'on a et qui, a priori, de ce qu'on en sait chez les animaux, nous confèrent le sens de l'orientation. Alors, là où c'était plus embêtant, c'est quand on a effectivement analysé des non-vaccinés, mais des vaccinés aussi, et qu'on a vu que chez les vaccinés, il y avait un point d'aimantation au point d'injection. Ça, c'était effectivement quelque chose qui nous a surpris. Alors, c'est pas chez tous, mais on va dire c'était à peu près 35 sur 75 qu'on avait analysé. Donc là, c'est quand même, là, ça devient préoccupant parce qu'on se dit, je comprends pas, parce que dans la liste des ingrédients, je ne comprends pas ce qui peut conférer une alimentation. Donc voilà, on en est là. Après, moi, vous dire ce que c'est, ce que ça n'est pas, je ne sais pas, mais ce que du coup, on essaye à nouveau d'interpeller l'Agence du médicament européen en leur demandant de se doter d'un organisme qui évalue la qualité de ce qu'il y a dans les flacons de vaccins. Vous voyez, c'est autant de contrôles qui devraient évidemment avoir lieu, surtout quand on injecte des enfants.
Bon ben, super.
Voilà, après il y a le problème des enfants et de la fertilité qui est un problème très préoccupant.
Oui, c'est ça, on peut faire comme avec les OGM, faire des semences stériles.
En tout cas, on ne peut que être alerté par le fait que il y a des essais cliniques. Il y a un essai clinique qui a été déposé pour évaluer l'impact du vaccin Pfizer sur la qualité du sperme et le nombre donc la morphologie des spermatozoïdes, leur aspect et leur motilité, et puis le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Et ça, c'est quand même embêtant. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des problèmes d'érection rapportés.
Et de dérèglement aussi.
Et comme post-vaccinal. Hein, c'est toujours intéressant aussi, c'est que finalement, le Covid semblé avoir ses répercussions et on constate que des vaccins ont l'air de déclencher ces mêmes phénomènes. Mmh. Donc c'est pour cela qu'à mon avis, ils ont diligenté cet essai clinique. Et de l'autre côté, vous avez les troubles menstruels qui sont suffisamment conséquents, dont on ne parle pas chez nous, ou à peine, et qui sont suffisamment conséquents pour que le NIH, pareil, ait décidé de financer 5 universités américaines sur le sujet, en posant la question, est-ce qu'il y a un lien entre ces vaccins et ces troubles menstruels, et d'autre part, combien de temps vont durer ces troubles menstruels? Et ces troubles menstruels sont de différentes natures. Vous avez des fortes hémorragies du vagin et certaines fois de l'utérus, donc c'est l'un ou l'autre. Vous avez des ménopausées qui vont saigner, vont avoir des hémorragies, et vous avez des jeunes filles prépubères avant leurs règles qui vont avoir aussi des saignements très abondants. Et à côté de ça, vous avez aussi des arrêts de règles qui sont très préoccupants et qui durent-ils ou pas, on ne sait pas. Je crois que c'est très variable d'une femme à l'autre, mais dès lors qu'on touche à l'horlogerie fine qui est la nôtre, celle des femmes, je pense que on a tout lieu de s'inquiéter d'une façon importante, surtout quand c'est sur des adolescentes. Merci.
Et une dernière question. On va conclure. Mais est-ce qu'on peut imaginer une programmation de l'ARN sur plusieurs générations?
Oui, alors c'est très intéressant. On peut l'envisager de différentes manières. On peut l'envisager... Donc on est là en théorie, hein, on ne sait rien, je tiens à préciser, mais on peut l'envisager ou par l'intégration éventuelle de l'ARN dans le génome de cellules germinales, donc que ce soit spermatozoïdes ou ovules, ovocytes. Et donc en fait, c'est vrai que ce qui nous inquiète, la raison pour laquelle on peut s'alerter, c'est que le génome de SARS-CoV-2 a été retrouvé comme ayant la capacité d'être rétrotranscrit et intégré dans le génome de cellules humaines. Donc ça, c'est fait par la meilleure étude au monde, la meilleure équipe au monde sur le sujet, celle de Rudolf Jainich. Et donc à ce moment-là, évidemment, si ça s'intègre dans le génome, il y a une possibilité que cela
d'hérédité.
Passe. Voilà. La deuxième façon, c'est de dire, il y a une modification épigénétique qui va se faire, et ces modifications épigénétiques, elles peuvent de même être transmises de génération en génération. Donc voilà au moins deux mécanismes par lesquels nos connaissances scientifiques justifient une interrogation réelle sur la possibilité que nous avons d'altérer le patrimoine génétique des générations à venir. Ça, c'est un aspect. Et le dernier aspect, c'est finalement sur la femme enceinte. Chez la femme enceinte, le placenta est quand même un bon passage, notamment des ARN, des nanoparticules lipidiques. Et donc, d'ailleurs, ils ont dit quand même que... Alors, c'est pas au niveau des anticorps, mais quand même, ils ont dit qu'il y avait un passage qui se faisait au niveau du fœtus. Et donc, à ce moment-là, la question est posée, est-ce qu'il y a une possibilité que cet ARN rentre dans le fœtus en construction, en élaboration, et notamment dans la phase où il fait ses organes reproducteurs. Et ça, c'est très, très préoccupant pour les jeunes femmes, les petites filles, les bébés filles. Donc ça fait quand même... ça fait beaucoup, vous voyez, choses expérimentales sur lesquelles nous n'avons pas de réponse.
Et vous avez entendu parler aussi du taux de dédimère dans le...
Le taux de dédimère qui est très augmenté chez les gens qui ont une souffrance cardiaque. Ça a toujours été un marqueur, mais c'est un marqueur qui, effectivement, du coup, doit être pris très au sérieux par tout médecin qui a en face de lui un sujet vacciné. Il y en a quand même maintenant beaucoup qui a une souffrance cardiaque. Voilà. Et il faut arrêter à nouveau de dire aussi que c'est pas grave parce que ils s'en sortent bien. Alors attendez, c'est chouette. Ils nous ont dit que 60% s'en sortaient bien ou quelque chose comme cela. Donc c'était pas grave. C'est myocardite et c'est péricardite des jeunes hommes. Sauf que le problème, c'est qu'il reste 40%. Et l'ANSM ne nous a pas donné de nouvelles sur ces 40% autres. Et effectivement, que ce soit les 60% ou les 40%, de toute façon, même quand vous s'en sortez bien d'une myocardite ou d'une péricardite, votre tissu, vos cellules musculaires sont cicatricielles. On a vu, c'est une espèce de nécrose. Et ça, forcément, quand vous êtes un jeune, avoir un cœur cicatriciel qui a une cicatrice, c'est jamais bon. Voilà un petit peu l'état de ce que je peux vous livrer dans ce froid et dans cette belle devant ce beau sacré cœur qui nous donne tout l'espoir dont nous avons besoin ces temps-ci.
C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.